Quand je me suis formé à l'hypnothérapie, j'ai découvert un protocole qui a révolutionné ma pratique de l'accompagnement, la régression hypnotique. Alors, avant d'aller plus loin, prenons le cas d'un enfant maltraité par une mère qui le frappe lorsqu'il a des mauvaises notes. Souvent, malgré la souffrance que les parents leur infligent, les enfants leur restent très attachés. Cet enfant va peut-être même développer des croyances du type « Si ma mère me frappe quand j'ai des mauvaises notes, c'est parce qu'elle m'aime. » Il y a alors une confusion qui va se créer chez lui entre l'amour et la relation violente que son parent entretient avec lui. Plus tard, cet enfant pourra peut-être croire, à un niveau inconscient, que pour maintenir un lien d'amour avec sa mère, il devra, par loyauté, avoir des mauvaises notes, c'est-à-dire échouer. Il se retrouvera alors à avoir des stratégies d'échec et d'auto-sabotage sans réellement comprendre pourquoi. Et probablement que cela aura aussi une incidence sur sa vie amoureuse, où il se retrouvera parfois à intégrer le rôle de sa propre mère maltraitante. On y reviendra. Alors, lorsque ce client, devenu adulte, viendra consulter un thérapeute, il lui dira peut-être que son problème, c'est qu'il souffre dans sa relation de couple, sans être forcément conscient de tout le contenu souterrain qui génère sa problématique. Et c'est là où le praticien en hypnose fera appel à des outils comme la régression hypnotique pour faire émerger la problématique. Le travail en régression consiste justement à faire voyager le client, un peu comme dans Retour vers le futur, dans son passé, pour lui faire rencontrer une version de lui plus jeune, généralement un enfant, souvent blessé ou bloqué dans une souffrance, pour dialoguer avec lui, en prendre soin, le rassurer ou être rassuré par lui et se réconcilier avec cet enfant. Si je prends le cas que j'ai cité plus haut, le client pourra par exemple rencontrer l'enfant qui n'a pas appris à faire la distinction entre être aimé de maman et échouer, pour lui transmettre un nouvel apprentissage qui l'aidera à revisiter en profondeur le sens qu'il donne à l'amour. En tant qu'accompagnant, j'ai longtemps privilégié le travail en régression avec mes clients. Il donnait souvent lieu à des larmes de libération, et je constatais avec un réel émerveillement comment la réconciliation du client avec cet enfant intérieur apportait beaucoup de bien-être, qui se traduisait par des changements réels dans la vie présente du client et dans son interaction avec le monde et avec les autres. Du moins, c'est ce que je croyais. Alors bien sûr, il arrivait que dans certains cas, cet enfant intérieur ait des comportements étranges envers le client ou que certains clients résistent à cette réconciliation. Mais je regardais ça plutôt comme une exception. Je ne voyais pas encore ce qu'il y avait derrière. La déflagration qui a tout remis en question. Un jour, j'ai découvert un livre de Stephen Wolinsky qui est venu littéralement dynamiter mes croyances sur l'accompagnement et remettre en question tout le travail que je faisais jusque-là avec l'enfant intérieur. Stephen Wolinsky, dans son ouvrage « The Dark Side of the Inner Child », « La face sombre de l'enfant intérieur », propose une définition intéressante de ce que l'on appelle communément « enfant intérieur ». Selon lui, l'humain, dans sa posture d'adulte la plus éveillée, adopte face au monde et à lui-même une position d'observateur. C'est cet observateur qui crée la réalité subjective, interne que vit la personne. Parfois, cet observateur, qu'on pourrait aussi appeler la version la plus sage de l'humain, parfois cet observateur donc est confronté à un événement traumatique. Il a alors une réaction, et c'est cette réaction que Stephen Wolinsky appelle enfant intérieur. Pour le dire autrement, notre système nerveux central, qui a pour mission d'organiser le chaos, crée dans un contexte de menace une identité, celle de l'enfant intérieur, qui est la stratégie de notre système nerveux pour affronter la vie quand l'environnement ou la famille devient dysfonctionnelle, dangereuse ou menaçante. Cette identité-là, nommée enfant intérieur, qu'on pourrait aussi encore appeler ensemble de mécanismes de défense se réactivera alors par la suite dans toutes les situations similaires où l'enfant, voire l'adulte, sera confronté à des menaces du même type. Un peu comme un mauvais rêve dans lequel l'adulte observateur s'endort pour laisser place à un film dans lequel il rejoue en boucle la même scène sans être capable d'en sortir. Et dans ce film, l'observateur endormi fusionne avec cette image de l'enfant intérieur. Il croit alors que l'enfant intérieur et lui ne font qu'un. La transe est le problème. Alors, si je reprends l'exemple d'un enfant victime de violence parentale, pour survivre et supporter cet environnement insécure, les coups qu'il reçoit, son mécanisme de défense, que Wolinski appelle la transe de l'enfant intérieur, sera d'apprendre à se dissocier de la douleur physique et de son corps. Autrement dit, il va développer une transe, un état hypnotique, pour fuir la réalité. C'est là que Stephen Wolinski appelle la transe comme problème, échappement, évitement. Une fois cette transe de l'enfant intérieur mise en pilote automatique, l'enfant se retrouvera souvent, une fois devenu adulte, à se dissocier. Cela va se traduire par le fait qu'il va souvent rêvasser, se déconnecter de ses émotions ou être absent de ses relations affectives. Dans ces moments, on pourrait dire que l'adulte est hypnotisé par l'enfant intérieur qui a pris le contrôle sur lui et cherche à lui faire éviter de vivre le sentiment de menace auquel il a essayé d'échapper enfant. Cette réactivation automatique de la transe est l'expression d'une stratégie qui maintient l'adulte prisonnier d'un ancien système de croyances. Et ce système-là n'est peut-être plus du tout adapté à l'environnement et au contexte d'aujourd'hui, au contexte présent de l'adulte. Wolinski va encore plus loin dans sa réflexion. Il affirme que s'identifier à l'enfant qui a été créé pour résister au chaos peut difficilement faire autre chose que de créer encore plus de chaos dans notre univers subjectif et dans le monde extérieur. Ce sont des solutions à court terme qui engendrent peut-être plus d'effets négatifs que positifs au final, car cet enfant intérieur nous prive de notre vraie nature. Nous ne sommes pas cet enfant, mais bien les créateurs, ou du moins les observateurs de cet enfant. Voilà pourquoi, selon lui, nous devons apprendre à dire au revoir à cet enfant intérieur et à travailler de manière adulte en acceptant le chaos, c'est-à-dire l'état de confusion, que nous devenions capables de vivre des situations vécues jusqu'alors comme intolérables sans recréer automatiquement la transe de l'enfant intérieur. Alors, quelles sont les étapes clés de l'accompagnement quand on travaille sur un changement avec l'enfant intérieur? En régression, voilà ce qui se passe lorsqu'on amène un client à rencontrer l'enfant intérieur. On est guidé par deux objectifs. Le premier, c'est rencontrer l'enfant pour le rassurer, l'aider dans un premier temps à se sentir plus en sécurité, en lui disant « Hey, petit, je te vois, je t'entends. C'est terrible ce que tu as vécu. » Pour qu'il y ait dans un premier temps une reconnaissance de sa souffrance. Ensuite, nous allons aider le client adulte à se désidentifier de l'enfant en créant une prise de distance. Car à partir du moment où le client est capable de dialoguer avec cet enfant, alors il n'est plus cet enfant, il est l'adulte qui regarde l'enfant. Il recommence à trouver sa position d'observateur. Réveiller cet observateur permet ainsi de se libérer de l'enfant intérieur blessé qui vous hypnotise. Si l'on fait que la première partie du travail, c'est-à-dire simplement rassurer l'enfant, on est juste en train de maintenir le client dans une problématique. C'est en tout cas comme ça que je l'ai soudain compris en relisant ce livre de Stephen Wolinski. Yasmine, une de mes clientes, s'était un jour sentie agressée lorsque son mari avait convoqué sans la prévenir la femme de ménage. Elle avait besoin d'être seule ce jour-là et s'était retrouvée avec cette présence non voulue dans la maison. Elle a alors soudain ressenti une énorme angoisse. Selon ses mots, elle s'était sentie envahie par la présence de cette femme de ménage, incapable de lui demander de s'en aller ou de revenir un autre jour. Avec mon expérience, j'ai cru percevoir ici les signes d'un souvenir traumatique. Paralysée dans une souffrance, mêlant sentiment d'intrusion, violence, colère contre son mari qui avait oublié de la prévenir, je lui ai demandé qu'est-ce qui vous a empêché de demander à la femme de ménage de revenir plus tard ? Ça se fait pas. Cette femme de ménage est pauvre et a besoin de gagner sa vie. J'ai pas le droit de lui demander quoi que ce soit. Mon attitude aurait été très égoïste et puérile, comme une petite fille capricieuse et privilégiée. Très égoïste et puérile ? Comme une petite fille capricieuse et privilégiée ? Et à votre avis, comme ça, sans réfléchir, quel âge elle pourrait avoir, cette petite fille ? Je sais pas, 6 ans ? Les yeux de la cliente de Yasmine se sont écarquillés. Sa respiration s'est bloquée. Yasmine, vous êtes là ? Qu'est-ce qui se passe pour vous, là ? Yasmine était partie dans une régression spontanée. Elle s'est retrouvée dans sa maison d'enfance, âgée de 6 ans. Un de ses oncles était rentré à l'improviste dans sa maison, alors que ses parents étaient absents, et l'avait agressé sexuellement, en lui répétant cette phrase. « Surtout, tu n'en parles à personne, sinon il t'arrivera malheur. » Yasmine avait tout de même eu le courage de raconter cet épisode à sa mère. Celle-ci l'avait alors traitée de menteuse et sévèrement réprimandée. Alors, ma cliente, face à la femme de ménage, n'était plus dans sa posture d'adulte. Son observateur intérieur avait fusionné avec l'identité de cette petite fille terrorisée et impuissante face à l'intrusion de son oncle, à la prophétie, à la suggestion post-hypnotique de « il t'arrivera malheur » et à la réaction de sa mère. Aider un client à réveiller son observateur endormi lui permettra de prendre du recul et l'aider à se reconstruire, en apportant d'autres perspectives au chaos qu'a vécu l'enfant. Un autre regard, une autre compréhension, d'autres ressources et aussi probablement d'autres interprétations de l'histoire. Généralement, cela permet un nouveau dialogue entre l'enfant intérieur et l'adulte et une nouvelle configuration d'équipe dans laquelle il n'y a plus de prise de pouvoir de l'enfant paniqué. L'enfant est rassuré. Il se sent un peu plus en paix, car il n'est plus prisonnier en boucle de la situation traumatique. La solution radicale à tous vos problèmes. Je vous rappelle que pour Wolinski, l'existence même de cet enfant intérieur est l'expression d'une réaction traumatique. Il ne serait donc pas illogique de considérer qu'une des étapes de la thérapie consisterait à aider cet enfant intérieur à disparaître. C'est ce qu'un jour, un de mes collègues thérapeutes a essayé de faire, et d'une façon plutôt radicale. Il avait une angoisse à accepter les compliments, et c'était lié à des problématiques de honte en lien avec un épisode traumatique de son enfance. Et si on le butait, cet enfant intérieur ? Vu qu'il est l'expression du problème, si on le bute, ce fils de pute, il ne devrait plus avoir de problème. Et c'est ce qu'il a fait. Lors d'une séance d'hypnose, il a donc décidé de tuer son enfant intérieur, qui était en lien avec cet événement traumatique. La scène aurait pu ressembler à celle d'un film d'horreur, je ne vous la détaillerai pas ici. Disons que ce fut un massacre, en bonne et due forme, avec rituel, démembrement du corps, incinération, funérailles, et hop, bye bye, fini l'enfant intérieur. À l'issue de cette séance, mon collègue est parti soulagé, jubilant et heureux, avec le sentiment d'avoir accompli un grand changement dans sa vie. Il lui restait maintenant plus qu'à voir comment sa problématique allait évoluer et son rapport au compliment. 2 semaines après la séance, mon collègue revient furieux. Il est revenu. Qu'est-ce qui est revenu ? Ce fils de pute, il est même pas mort ! Nous en étions arrivés à une conclusion simple. L'enfant intérieur ne meurt pas comme ça. Et soudain, L'image d'un film a refait surface dans mon esprit. La solution est toujours dans les films. À un moment, dans le film E.T. de Steven Spielberg, l'extraterrestre est sur le point de mourir. Elliot, le petit garçon, est prêt à tout pour le sauver. Et il comprend alors que le seul moyen de sauver E.T., c'est de l'aider à rentrer chez lui, à quitter la Terre, car ce n'est pas sa place, pour rejoindre sa planète. Elliot sauve E.T. en l'aidant à partir à jamais. Et par la même occasion, Elliot meurt à lui-même, laissant partir cette part d'enfance pour rentrer dans le monde des grands. Peut-être en est-il de même pour l'enfant intérieur. Le meilleur moyen de s'en occuper, c'est de lui donner envie de partir. Certains parents protègent tellement leurs enfants qu'ils ne les aident pas vraiment à se détacher. Je me souviens d'un roman terrible de Boris Vian, je crois que c'était L'Herbe Rouge, où une mère finissait par enfermer son enfant dans une cage aseptisée pour le protéger des microbes, et il finissait par en mourir. Aimer les enfants, c'est peut-être leur donner les ressources dont ils ont besoin pour grandir, devenir autonomes, et qu'ils se décident par eux-mêmes à partir. Alors est-ce qu'aimer notre enfant intérieur pourrait être une solution? Accompagner l'enfant intérieur, non pas pour le garder auprès de nous, non, juste pour lui donner envie de grandir, et qu'il parte de lui-même, qu'il réalise que nous n'avons plus besoin de lui, et qu'il est suffisamment en sécurité pour vivre sa vie, pendant que nous retrouvons notre position d'adulte observateur. Il restera, une fois l'enfant intérieur parti, à se demander comment gérer l'espace vacant. C'est une autre histoire dont nous ne parlerons pas ici. Une nouvelle perspective réjouissante. Lorsque j'ai compris qu'avec mes clients, j'abordais le travail en régression dans l'optique de relier l'adulte et l'enfant, là où Wolinski suggérait d'aller plus loin et même d'aller à l'encontre de ça en les déliant, ça m'a foutu une sacrée claque et une sacrée leçon aussi. Depuis, je travaille différemment avec les régressions et j'ai de bons résultats. Et je constate souvent chez mes clients des larmes de libération et je suis heureux de les aider à aller vers un bien-être. Bon, cela ne marche pas avec tous mes clients. Il y a toujours des exceptions, pas vrai. Mais la découverte la plus importante. Tu sais ce que j'ai le plus appris grâce à Wolinski? Au-delà même de la question de l'enfant intérieur. C'est à quel point ce livre, en remettant en question ma vision de l'accompagnement et des principes que je tenais pour vrais et efficaces, a activé des mécanismes de défense très forts chez moi. J'y ai d'abord résisté de manière radicale, redoutant le chaos et l'effondrement. Avant de tester cette nouvelle approche, de l'accepter et de finir par la tenir pour vrai aujourd'hui. Cela m'a permis d'apprendre que ce que je crois vrai aujourd'hui sera sans doute infirmé demain. Alors, si toi aussi tu as tendance à rechercher la sécurité de théories solides dans tes accompagnements et que cela t'amène parfois sans même t'en rendre compte à forcer la réalité, à s'adapter à ton système de croyance, à enchaîner des formations pour découvrir de nouveaux protocoles, demande-toi si cela n'est pas justement une transe de ton enfant intérieur qui lutte contre la peur du chaos. Ce n'est pas tant l'enfant intérieur qu'il faut tuer. Le titre de mon article est sans doute provocateur, mais notre besoin de nous accrocher un peu trop à des théories et des visions attirantes et à chercher à leur donner raison coûte que coûte, au détriment de cette matière insaisissable qu'on appelle la réalité. Et tu n'es vraiment pas obligé de me croire. Un bon remède à cela, c'est de t'entraîner à remettre en question tes certitudes. Tu peux le faire en discutant avec une personne dont tu ne partages pas du tout les croyances, voire même qui t'irrite, et te demander en quoi elle a plus raison que toi, ou du moins autant raison que toi. C'est un effort. Ça gratte, c'est difficile, c'est désagréable. Comme c'est difficile parfois de se taire quand on est persuadé d'avoir raison. Dans mon quotidien, moi j'utilise l'écriture créative comme une hygiène pour apprendre à développer cet état d'esprit flexible, m'entraîner à remettre en question mes certitudes, en particulier celles qui se trouvent dans mon angle mort, c'est-à-dire invisible à mes yeux. Tiens, je te mets un lien sur un article que j'ai écrit sur l'angle mort, peut-être que ça pourrait t'intéresser. C'est en tout cas ce que je transmets dans tous mes stages et que j'essaye de mettre en application dans mon blog et dans mes articles. Voilà pourquoi il me paraît important, quand tu as une théorie qui fonctionne, d'avoir toujours en tête qu'elle n'est qu'une grille de lecture imparfaite, comme nous.